connectés avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, l'antenne vous appartient. Nous sommes à 2 mois, jour pour jour, du second tour de l'élection présidentielle française. L'occasion toute la journée de faire le point sur l'état de la France et sur la manière dont le pays est perçu dans le monde, avec évidemment de nombreux reportages et de nombreux invités. En tout cas, ce matin, on a envie de vous entendre sur la campagne électorale. Une campagne, vous le savez, marquée par le feuilleton François Fillon, la candidat de la droite qui est menacée donc par la justice. Il est en chute libre dans les sondages. Ces derniers jours, on vous en a beaucoup parlé, il a été abandonné par de nombreux responsables politiques dans son camp. Et pourtant, hier soir, François Fillon a réussi à sauver sa candidature en obtenant le soutien unanime du comité politique de son parti, les Républicains. Alors a-t-il raison de rester dans la course à l'élection présidentielle? Que vous inspire ce feuilleton, ce psychodrame qui dure maintenant depuis plusieurs semaines? Quelles peuvent être finalement les conséquences pour la droite française? Vos réactions nous intéressent, vous nous appelez, vous qui nous écoutez à l'étranger. Livrez-nous votre regard, justement, sur cette campagne électorale. On en parle ensemble dans 30 minutes. 33 9 693 693 70. Vos réactions également sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter le débat. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Beaucoup de questions ce matin sur la campagne électorale et notamment sur François Fillon. Liliane, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Yaoundé, vous êtes au Cameroun, on vous écoute.
D'accord. En fait, François Fillon maintient sa candidature malgré sa convocation par la justice le 15 mars. Bon, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont les moyens de recours dont il disposerait éventuellement pour pouvoir se sortir de ce pétrin juridique.
Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous suivez le volet judiciaire de cette affaire pour RFI. Effectivement, François Fillon convoqué le 15, donc ce sera mercredi, la semaine prochaine, dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif pesant sur son épouse. Que va-t-il se passer exactement mercredi prochain?
Écoutez, Juan, une interrogation tout d'abord. Hein. Sera-t-il vraiment mis en examen? Rien n'y oblige les juges, Liliane. François Fillon et son épouse ont été convoqués aux fins de mise en examen. Les magistrats instructeurs vont exposer à François Fillon les charges recueillies contre lui pendant l'enquête. À cet instant, le candidat de la droite aura le droit de se taire, de faire une déclaration spontanée ou encore de répondre aux questions des magistrats. Ses avocats Antonin Lévy et François Cornu-Gentil pourront, après cette audition, faire des observations. Et ce n'est qu'à la toute fin de cette audition, le 15 mars, que les juges prendront leur décision. Premier cas de figure, ils estiment qu'il y a des indices graves et concordants de détournement de fonds publics et François Fillon sera mis en examen. Deuxième possibilité, Liliane, les magistrats trouvent convaincantes les explications de François Fillon et ils le placeront alors sous le statut de témoin assisté.
Alors c'est quoi le statut de témoin assisté?
Eh bien c'est une personne qui est mise en cause dans une instruction judiciaire mais à qui on ne reproche pas la commission d'une infraction. Le témoin assisté, s'il le reste jusqu'au bout de la procédure, ne sera pas poursuivi. Suivi devant le tribunal. Obtenir ce statut, Juan, c'est bien sûr le combat de la défense. Ce serait pour François Fillon une grande victoire.
Une victoire évidemment politique et judiciaire. Donc si je comprends bien Franck Alexandre, rien ne dit qu'il sera forcément mis en examen. Il peut être donc soit mis en examen, soit en témoin assisté.
C'est ça. Exactement. Ce sont les deux options. Et s'il est mis en examen, les recours sont encore possibles pour les avocats de François Fillon. Ils pourront saisir la chambre de l'instruction pour contester cette mise en examen. Et recours qui serait possible dès le 16 mars, dès le lendemain. D'ordinaire, ces recours, vous savez, sont très longs. La justice est un peu embouteillée. Il faut attendre des mois pour obtenir une audience. Néanmoins, dans ce cas très particulier, dans le contexte de la campagne présidentielle, la chambre de l'instruction peut toujours statuer en urgence.
Oui, on rappelle que le 15 mars, date donc de la convocation de François Fillon, c'est 2 jours avant la date limite du dépôt des parrainages et parrainages d'élus pour l'élection présidentielle. On a répondu à vos questions, Liliane?
Oui, je suis tout à fait satisfaite.
Eh bien, on vous souhaite une bonne journée à Yaoundé et merci à Franck Alexandre. 9h15 à Paris, encore une question concernant François Fillon. Bonjour Delphin.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Bénin, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, je suis à Calavi.
Très bien, Calavi, Abomey Calavi.
Oui, c'est ça. En fait, François Fillon a reçu le soutien de son bureau politique. Alors, va-t-il continuer sa campagne malgré les défenseurs du secteur de son parti? Aussi, l'électorat qu'il a porté lors des primaires continuera-t-il à le soutenir malgré la crise?
Alors, ce sont des bonnes questions, effectivement. Enfin, visiblement, la tempête semble se calmer, puisque je le disais tout à l'heure, hier soir, le comité politique des Républicains a renouvelé à l'unanimité son soutien à François Fillon. Bonjour Bruno Cotterêss.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au CNRS et au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Vous êtes un spécialiste des comportements et des attitudes politiques. Le bureau politique fait donc bloc derrière le candidat Fillon. Vous y croyez ou c'est une unité de façade?
Alors, ils n'avaient pas le choix parce qu'il y avait vraiment le feu dans la maison pour eux et il s'agissait pour eux de montrer eh bien, qu'ils allaient essayer maintenant d'essayer de sauver le soldat François Fillon, qu'il se qualifie pour le deuxième tour. Ça ne va pas être évident du tout parce que dans l'opinion publique française, cette affaire a laissé des traces, je pense, assez profondes sur des éléments auxquels les Français sont très sensibles. La question de la transparence de la vie politique, la question de la probité des élus, il restera à savoir si François Fillon peut remobiliser en priorité son camp qui est apparu quand même assez divisé lors de toute cette affaire.
Oui, parti qui s'est fortement divisé ces derniers jours, plus de 300 élus ont quitté le navire tout de même.
Voilà, 300 élus ont quitté le navire et pas des moindres, certains de ses plus proches dans l'organisation de sa campagne, un certain nombre de figures du parti, hein, je pense en particulier à des gens comme Bruno Le Maire. Donc pour François Fillon, il s'agit de montrer maintenant qu'il a la capacité à la fois en leadership et vis-à-vis de son programme, de montrer qu'il fédère, qu'il réunit autour de lui, ça va vraiment pas être évident.
Ouais. Dans les intentions de vote, François Fillon est passé sous la barre des 20%. Delphin, notre auditeur, nous demandait quel impact cette affaire a-t-elle finalement sur son électorat, celui qui a voté pour François Fillon aux primaires? Est-ce que vous avez analysé justement le comportement d'abord des partisans, des fidèles de François Fillon?
Oui, les fidèles de François Fillon, il y a deux types. Il y a ceux d'abord qui ont été déçus. Alors ça, c'est une partie de l'électorat qui s'était mobilisé pour la primaire et qui a eu le sentiment, au fond, d'avoir acheté un François Fillon qu'il ne connaissait pas, finalement, fondamentalement, d'avoir découvert un aspect de sa personnalité, d'avoir découvert un aspect de son fonctionnement qu'il ne connaissait pas bien. Et puis, il y a un deuxième noyau, là, c'est vraiment le noyau dur des fillonistes, ceux qui, plus on va leur expliquer qu'on s'est acharné contre leur candidat, plus ils vont le soutenir et croire en lui. Alors là, sur ce deuxième noyau dur, il a leur soutien indéfectible. Est-ce qu'il va arriver à récupérer les électorats de centre-droit en particulier qui se sont mis à fortement douter de lui?
Ouais. On parlait à l'instant avec Franck Alexandre et notre auditrice Liliane du Cameroun de cette date importante évidemment dans le calendrier judiciaire et politique de François Fillon, le 15 mars. Il va devoir s'entretenir avec les juges. En cas d'une éventuelle mise en examen, est-ce que ça ne risque pas encore de diviser un peu plus le parti?
Alors, il est certain que si le 15 mars, François Fillon est bien mis en examen, eh bien, il ne va pas arriver à se débarrasser facilement de toute cette affaire parce que vont lui revenir en boucle les images d'un François Fillon qui, à la sortie de l'été, avait dit qui aurait imaginé le général de Gaulle mis en examen, qui, il y a quelques semaines, disait « je ne serai plus candidat si je suis mis en examen ». Donc, s'il est mis en examen, à nouveau, ça va repartir. Évidemment, s'il était sous témoin assisté, statut de témoin assisté, à ce moment-là, ça changerait totalement la donne pour lui.
Ouais, merci beaucoup, Bruno Cotterêss, d'avoir été avec nous ce matin. Delphin, on a répondu à vos questions?
Oui, parfait, Juan. Bonne journée.
Bonne journée à vous, à Abomey-Calavi, au Bénin, 339-693-693-70. Vous nous appelez, nous répondons à vos questions. Je me fais le porte-parole d'Amadou, qui est en région parisienne, à Maison-Alfort exactement. Il revient sur cette information qu'il a entendue la semaine dernière, des parlementaires républicains qui ont envisagé, à un moment donné, de saisir le Conseil constitutionnel en vue d'un report de l'élection présidentielle. Alors effectivement, on a entendu Pierre Lelouch qui envisageait de saisir le Conseil constitutionnel pour reporter le scrutin présidentiel. Est-ce possible, nous demande Amadou, dans ce cas-là, que prévoit la loi, que dit la Constitution sur ce sujet? Bonjour Didier Mauss.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université Aix-Marseille. Bon, depuis hier soir, l'heure est visiblement au rassemblement, mais effectivement, il y a quelques jours, certains à droite réclamaient un report de l'élection. C'est possible ou pas?
Alors, le report de l'élection, oui, c'est possible. Je dirais, la Constitution, dans son article 7, prévoit différentes modalités du report. Bon, il faut d'abord qu'il y ait une cause du report. Et il y a deux causes inscrites dans la Constitution. La première, c'est le décès d'un des candidats. Ça paraît évident. Bon, et la deuxième, c'est l'empêchement d'un des candidats. Alors, les conditions du report ne sont pas exactement les mêmes selon les périodes concernées. La période qui permettrait le report commence dans 3 jours, le 10 mars, c'est-à-dire une semaine avant la clôture des parrainages. Bon, et puis ensuite, il y a d'autres possibilités. Et le report, dans la première période, est facultatif. Dans les suivantes, il est obligatoire.
Enfin, ce qui nous intéresse, excusez-moi Didier Mauss, bon, il y a en cas de décès, mais il y a en cas d'empêchement. Qu'est-ce qu'on entend par empêchement et qu'est-ce qui pourrait faire de François Fillon un candidat empêché ?
Alors, si vous voulez, l'empêchement tel qu'on l'a interprété jusqu'à présent, c'est l'empêchement médical, l'empêchement physique. C'est un des candidats qui a un accident de voiture, un des candidats qui a une crise cardiaque ou quelque chose de ce type, et qui est physiquement empêché de faire campagne. Bon, mais ce n'est pas l'hypothèse que l'on avait dans la tête il y a quelques jours. La deuxième hypothèse, c'est est-ce qu'il existe une sorte d'empêchement judiciaire, en réalité, des conditions dans lesquelles, en raison de son implication dans une procédure judiciaire, un candidat n'est plus en mesure de faire campagne. Alors la réponse est partiellement oui, mais elle ne s'applique pas à François Fillon. Imaginez un candidat qui non seulement soit mis en examen, mais soit soumis à un contrôle judiciaire, c'est-à-dire à une limitation de sa liberté de circulation ou de contact avec d'autres personnes. Bon, là, il est évident qu'il y a une sorte d'empêchement à faire campagne. Mais François Fillon, comme d'ailleurs Marine Le Pen, ne peuvent pas être soumis à un contrôle judiciaire à cause de leur immunité parlementaire. Donc, est-ce que la simple mise en examen suffirait pour considérer qu'il y a un empêchement ? Au sens propre, non. En interprétant beaucoup, peut-être oui.
D'accord. En tout cas, le dernier mot revient évidemment au Conseil constitutionnel, mais avant de se prononcer, le Conseil constitutionnel doit être saisi. Alors, il peut être saisi soit par des députés, soit par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Mais enfin, pour l'instant, ce scénario qu'à un moment donné a été envisagé la semaine dernière est évidemment totalement écarté. Didier Mauss, bonne journée.
Merci
d'avoir été avec nous en direct sur RFI et on salue au passage donc Amadou de Maison Alfort. 33 9 693 693 70, vous avez envie de commenter justement le feuilleton François Fillon, appelez-nous, vous êtes déjà nombreux sur la page Facebook de l'émission, la page RFI appelle sur l'actualité, il y a Hervé qui nous dit « Mais où est donc passée la moralisation de la vie politique ? François Fillon doit respecter sa parole et laisser la place à un autre candidat. Il l'a dit à plusieurs reprises qu'il ne se présentera pas, s'il était mis en examen. Pour l'instant, Franck Alexandre a été très clair, hein, pour l'instant, on ne sait pas s'il sera mis en examen la semaine prochaine. Siaka se réjouit de la décision de François Fillon de se maintenir. Il a été choisi par les militants LR. Il est tout à fait légitime, nous dit cet auditeur. De toute façon, ce n'est pas à moins de 50 jours du premier tour qu'il va abandonner. Valérie Gasse, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous, journaliste au service politique des RFI, on continue à parler de la politique française. On va s'intéresser maintenant à Emmanuel Macron qui a enfin présenté son programme. C'était la semaine dernière. Eugène, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous avez suivi attentivement la conférence de presse d'Emmanuel Macron et vous avez plusieurs questions justement concernant son programme.
Oui, effectivement, monsieur Juan, j'ai plusieurs questions par rapport à son programme. Il propose de former un gouvernement de 15 ministres au maximum. Comment va-t-il réduire le gouvernement de 23 ministres, étant donné qu'il est aujourd'hui constitué de 38?
Ah, alors on va déjà répondre à cette première question, Valérie Gasse. La réduction du nombre des ministres, ça fait partie de son programme. Beaucoup l'avaient déjà annoncé par le passé, ça n'a jamais vraiment été respecté. Ouais. Comment compte-t-il s'y prendre ?
Bah, en fait, ça fait partie d'un chapitre hein, de ce programme qu'il a annoncé la semaine dernière, après qu'on l'ait beaucoup attendu, c'est la rénovation démocratique. Hein. C'est un thème sur lequel il insiste beaucoup, Emmanuel Macron, et on comprend pourquoi. On en parlait il y a quelques instants avec l'affaire Fillon. Hein. Il y a quand même une campagne qui est marquée par les affaires, les mises en cause de la probité des candidats, François Fillon, Marine Le Pen. Et ça, c'est un peu ce qui représente la vieille politique avec laquelle Emmanuel Macron veut prendre ses distances. Alors, le candidat d'En Marche, eh bien, il tente d'incarner une sorte de renouvellement. Et même s'il a été le conseiller et puis le ministre de François Hollande, et pour lui, le renouvellement, eh bien, ça passe par beaucoup de choses. La réduction du nombre de ministres, mais aussi la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires, l'accélération des procédures d'examen des textes législatifs, c'est-à-dire du travail législatif, et l'évaluation aussi des parlementaires, des ministres et même du chef de l'État, hein, l'État, le chef de l'État qui devra, si Emmanuel Macron est élu, rendre des comptes tous les ans devant le Parlement réuni en congrès. Et puis aussi l'aspect moralisation, hein, on revient toujours sur les mêmes thématiques, moralisation de la vie politique. Emmanuel Macron veut faire voter une grande loi pour interdire par exemple l'embauche d'un membre de sa famille par un élu ou un membre du gouvernement. On voit bien la résonance avec l'actualité et puis aussi l'interdiction d'exercer des activités de conseil pour éviter les conflits d'intérêts, hein, travailler pour une grande entreprise en étant parlementaire. Et puis, il veut limiter le cumul des mandats dans le temps, pas plus de 3 mandats successifs. Un autre grand principe qu'il veut faire respecter.
La parité.
Exactement, oui. Juan, la parité, notamment sur les listes législatives, mais au sein du gouvernement. On revient à la question de Gênes. Alors, en proposer de réduire le gouvernement à 15 ministres, hein, c'est une manière de montrer qu'on veut être efficace. Mais comme le disait Juan tout à l'heure, il faut être conscient que cette proposition de faire un gouvernement resserré, elle revient un peu systématiquement dans les campagnes. Il n'y a pas de candidat qui dit « je veux 75 ministres ». Mais j'ai envie de dire à Eugène que c'est vraiment une question de volonté politique et qu'on jugera si jamais Emmanuel Macron est élu, s'il respecte cet engagement.
Ouais, il y aura peut-être peu de ministres, mais beaucoup de secrétaires d'État aussi.
Ça, c'est aussi souvent la manière de biaiser un peu, de ne pas respecter son engagement, mais pas tout à fait.
Eugène, vous avez d'autres questions ?
Oui, effectivement, j'ai une autre question. Emmanuel Macron veut économiser 60 milliards d'euros sur le budget de l'État sur 5 ans. De plus, il compte réduire le chômage de 900 000 chômeurs. Comment parviendra-t-il à réaliser ces deux objectifs, me semble-t-il, rides ?
Alors, c'est vrai que l'objectif est très ambitieux, réduire le nombre de chômeurs de 900 000 en 5 ans. Il veut donc ramener le taux de chômage à 7%. Comment va-t-il s'y prendre ?
ça va être son grand défi. Hein. C'est un peu, ça devrait être le résultat de toute la politique économique qu'il veut mettre en œuvre. Il y a plusieurs axes. D'abord, tout ce qui concerne les entreprises, hein, notamment les allègements de charges patronales. L'idée, c'est de réduire le coût du travail, donc de faciliter l'embauche. Alors, on a beaucoup parlé du CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, c'est ce qui avait été mis en place par François Hollande pour relancer la compétitivité des entreprises. Eh bien, Emmanuel Macron veut le transformer en un allègement permanent, hein, des cotisations sociales, donc il veut le pérenniser. Il veut aussi créer ce qu'il appelle des emplois francs pour les quartiers, les habitants des quartiers en difficulté, c'est-à-dire que là, il y a une exonération de charges pour le patron qui embauche un habitant d'un quartier en difficulté, 15 000 euros sur 3 ans. Il y a toute une série de mesures d'incitation à l'embauche, un peu pour les salariés peu qualifiés au niveau du SMIC.
Et il veut simplifier aussi le code du travail.
Alors voilà, on en a beaucoup parlé, hein, ça revient dans cette campagne. Il veut que la loi fixe les grands principes, hein, la durée légale du temps de travail, il ne la remet pas en cause, mais après, il veut qu'il y ait une négociation des accords de branche dans les entreprises pour les règles un petit peu plus pratiques. Il veut redonner plus de flexibilité, de liberté. Alors, il y a une deuxième partie dans la question aussi.
Oui,
de...
sur les 60 milliards d'économies envisagées par Emmanuel Macron, François Hollande, de mémoire, en avait promis 50 en 3 ans. Là, il promet 60 milliards. Quelle sera sa méthode ?
Bah, écoute, comme tout le monde, hein, réduire les dépenses publiques et de l'État et des collectivités locales. Là, rien de nouveau. Il a peut-être une méthode. Hein, on sent un peu la touche Macron. C'est que chaque ministre devra s'engager sur une espèce de plan annuel et de rendre des comptes sur les dépenses qu'il doit réaliser chaque année. C'est toujours cette culture de l'évaluation, hein, que aime bien Emmanuel Macron, qui est censé améliorer l'efficacité. Et puis, il y a le développement du numérique aussi, qui est censé faire des économies. Alors, il veut réduire le nombre de fonctionnaires, hein, d'emplois publics. Mais là, il est moins brutal que François Fillon, qui parle de 500 000. Lui avance le chiffre de 120 000 postes non renouvelés. Et puis, malgré tout, ce qu'il faut dire, c'est que son objectif de réduction des dépenses publiques, c'est aussi pour rester sous la barre des 3% des déficits. Lui veut respecter les engagements vis-à-vis de Bruxelles.
Ouais, merci beaucoup Valérie Gasse. On avait prévu d'autres questions sur le programme d'Emmanuel Macron. On aura l'occasion évidemment d'y répondre dans les prochains jours. On remercie Eugène donc, qui nous appelait de Bujumbura. Demain, nous serons le 8 mars. Ce sera la journée internationale des femmes. Et pour l'occasion, RFI vous proposera une journée spéciale. Toute la journée, nous accueillerons la comédienne Aïssa Maïga. Elle sera d'ailleurs la rédactrice en chef d'Appel sur l'actualité. C'est-à-dire que c'est elle qui a choisi les sujets sur lesquels vous allez allez réagir. Donc soyez à l'écoute. Dans quelques minutes, je vous donnerai justement les sujets sur lesquels vous pourrez débattre demain avec Aïssa Maïga. À suivre dans 30 secondes les informations et on revient dans 10 minutes.
Priorité santé.